Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le dollar et le système monétaire international, de Michel Aglietta et Virginie Coudert, est un essai de synthèse en économie internationale publié dans un format court. Son objectif est de rendre intelligible la place centrale du dollar dans le système monétaire international, en expliquant à la fois ses racines historiques, les mécanismes qui entretiennent sa domination et les conséquences pour la stabilité économique mondiale. Les auteurs replacent le dollar dans une trajectoire longue. Depuis sa construction comme monnaie nationale jusqu'à son ascension comme monnaie clé du système de Bretton Woods. Puis sa survie comme monnaie dominante après le passage au change flottant. L'ouvrage aborde aussi les tensions structurelles créées par cette asymétrie, souvent décrite comme un privilège pour les États-Unis et une contrainte pour le reste du monde. Enfin, il ouvre sur les évolutions possibles, notamment la place croissante des économies émergentes et la question de nouvelles règles de coopération monétaire internationale. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la formation historique du dollar comme monnaie internationale. Le livre met en avant une idée directrice simple, la domination monétaire ne se décrétait pas, elle se construit dans le temps par des institutions, des crises et des rapports de puissance. Les auteurs retracent ainsi la trajectoire du dollar depuis ses fondations nationales. Avec elle, l'évolution des arrangements bancaires et la consolidation progressive d'un cadre monétaire apte à fournir une monnaie crédible. La création de la réserve fédérale constitue un jalon majeur, car elle renforce la capacité des États-Unis à fournir de la liquidité et à stabiliser leur système financier. Condition importante pour qu'une monnaie puisse s'internationaliser. Elle analyse, mais ensuite elle accent sur l'entre-deux-guerres et sur l'issue institutionnelle de 1944, lorsque Bretton Woods installe le dollar au centre du système de change. Ce parcours historique sert moins à raconter une chronologie qu'à expliquer des mécanismes, la confiance, la profondeur des marges financiers, la capacité à absorber les chocs et le rôle géoéconomique. En filigrane, le livre montre comment l'histoire monétaire et l'histoire politique se rejoignent pour produire une hiérarchie durable des monnaies. Deux ciments, Bretton Woods. Sa destruction et la permanence de l'asymétrie, un apport important de l'ouvrage est d'expliquer pourquoi la fin de Bretton Woods ne met pas fin au rôle central du dollar. Dans le système d'après-guerre, le dollar sert de pivot des relations de change et l'architecture repose sur des engagements de stabilité. Lorsque ce cadre se défait et que l'échange flottant s'impose, on aurait pu s'attendre à une concurrence plus ouverte entre grandes monnaies. Or, les auteurs soulignent que l'asymétrie persiste, car elle est ancrée dans la structure même des relations monétaires et financières internationales. Le dollar continue d'être la principale monnaie de facturation, de financement et de réserve, ce qui entretient un cercle de dépendance plus il est utilisé. Plus il est liquide et attractif. Le livre discute aussi les tentatives de réforme et les difficultés à mettre en place des règles communes. Notamment à partir de la fin des années 1960, sous l'égide de d'institutions internationales. Cette lecture souligne une tension récurrente à système à monnaie dominante peut fournir de la liquidité globale. Mais il concentre aussi les pouvoirs d'ajustement et les coûts sur les pays qui ne contrôlent pas cette monnaie. Troisièmement, les fonctions d'une monnaie internationale et la concurrence entre devises, les auteurs clarifient les fonctions concrètes d'une monnaie internationale. En distinguant ses usages comme instrument de paiement, unité de compte et réserve de valeur à elle échelle transfrontière. Cette grille de lecture permet de comprendre pourquoi une monnaie peut dominer même si d'autres monnaies sont importantes dans le commerce et la finance. Le livre compare le dollar aux autres grandes devises, comme l'euro et le yen, en insistant sur les éléments qui font la différence profondeur des marches liquidites. Securité percute des actifs et inertie des habitudes de facturation et de gestion des risques. Elle analyse, aborde aussi les phénomènes de dollarisation, quand des agents ou des pays s'appuient sur le dollar pour se protéger de l'instabilité domestique et les tentatives de dédollarisation, qui restent difficiles tant que les alternatives ne renient pas des conditions équivalentes de confiance et de liquidité, sans entrer dans une technicité excessive. Le livre montre que la concurrence entre monnaies est souvent instable. Car la liquidité internationale ressemble à un bien public, les acteurs se coordonnent sur la monnaie la plus pratique, ce qui renforce sa position. Cette logique explique la résilience du dollar face aux changements institutionnels. Quatrièmement, le privilège exorbitant et ses effets sur l'économie mondiale, le cœur analytique du livre tient dans l'examen des conséquences de la domination du dollar. En émettant la monnaie internationale principale, les États-Unis bénéficient d'un avantage particulier, souvent résumé par l'idée du privilège exorbitant. Les auteurs montrent comment cette situation influence le financement externe. La capacité à emprunter dans sa propre monnaie et la diffusion mondiale des conditions financières américaines. Ils analysent aussi les gains associés à l'émission de liquidités internationales et la façon dont les détenteurs de réserves en dollars contribuent, de fait, à soutenir certains équilibres financiers globaux. Cette asymétrie a des contreparties, elle peut encourager des déséquilibres persistants et alimenter des tensions autour des ajustements de change et des politiques. Macroéconomique. Le livre met également en avant les effets sur les autres pays, notamment via le mésalignement des monnaies. La gestion des réserves de change et la sensibilité au cycle financier. L'approche reste structurelle, il ne s'agit pas seulement de critiquer une politique particulière, mais d'expliquer pourquoi un système organise autour d'une monnaie dominante transmet des impulsions et des contraintes de manière inégale. Cette partie aide le lecteur à relier finances internationales et enjeux de souveraineté économique. En dernier lieu, vers un système plus multipolaire émergent. Renminbi et coopération régionale, sans annoncer un renversement immédiat, le livre discute les facteurs qui pourraient faire évoluer le système monétaire international. Les auteurs mentionnent la montée en puissance des économies émergentes et la question de l'internationalisation du renminbi qui ravive le besoin de règles mutuellement acceptées. L'idée clé est qu'un monde plus multipolaire ne devient pas automatiquement plus stable, la coexistence de plusieurs monnaies importantes peut intensifier la concurrence pour la infortie. Liquidite et rendre la coordination plus difficile. D ou l'importance, selon l'orientation générale du livre, de reconstruire des formes de coopération. Les auteurs évoquent un retour à l'esprit de certaines propositions de Keynes à Bretton Woods. Poisson. En mettant l'accent sur des arrangements institutionnels capables de partager les contraintes d'ajustement et de limiter les déstabilisations financières. Parmi les pistes figurent l'institutionnalisation de zones régionales de coopération monétaire et un renforcement des régulations financières, afin de mieux articuler intégration financière et stabilité. Cette ouverture prospective garde une prudence analytique, il ne s'agit pas de prédire la fin du dollar, mais de montrer que l'extension du poids des émergents et les transformations de la finance imposent de repenser les règles du jeu. Le lecteur y trouve un cadre pour évaluer les débats sur dédollarisation et réforme du système. En conclusion, ce livre convient aux étudiants en économie, aux professionnels de la finance et des affaires publiques, ainsi qu'aux lecteurs curieux qui veulent comprendre pourquoi le dollar reste au centre du jeu mondial malgré la fin de Bretton Woods et l'émergence de d'autres monnaies fortes. Son bénéfice principal est intellectuel et pratique à la fois, il fournit un cadre clair pour relier l'histoire monétaire, les institutions et les mécanismes de marche qui déterminent la liquidité internationale, en clarifiant les fonctions d'une monnaie internationale, la logique de coordination qui favorise une devise dominante et les effets macrofinanciers du privilège exorbitant. L'ouvrage aide à mieux interpréter des sujets souvent traités de manière fragmentée, comme les réserves de change, les cycles du dollar ou les tensions d'ajustement entre pays. Dans la catégorie des essais sur le système monétaire international, il se distingue par son effort de synthèse et par l'articulation constante entre longue durée historique et enjeux contemporains, sans se limiter à un commentaire d'actualité. Il est aussi utile pour prendre du recul sur les discours rapides de dédollarisation plutôt que de promettre un basculement. Il explique les conditions institutionnelles et financières nécessaires à toute alternative crédible. Refermons le livre. On dispose d'une grille de lecture robuste pour suivre les évolutions vers un système potentiellement plus multipolaire et pour comprendre pourquoi la coopération reste un enjeu central. Si vous souhaitez soutenir Michel Aglietta, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.